petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Aujourd'hui, je ne veux pas reparler de la pandémie du coronavirus, mais simplement noter que cette pandémie manifeste avec force notre expérience du hasard. Au même endroit, au même moment, on le sait bien, les uns sont contaminés, les autres non, selon de petits courants d'air qui véhiculent ou non le virus. En ne tenant pas compte de l'accidentel, du fortuit, du contingent, la science ne traite jamais du hasard, elle l'évite pour ne s'en tenir qu'aux idées universelles. La science fait l'impasse de la vie. Et le langage et la science différencient les choses en mettant en rapport leurs définitions. Chaque chose se définit par d'autres choses qui entrent dans sa définition. C'est l'expérience du dictionnaire. Quand je cherche un mot, une définition, table, eh bien j'ai une corrélation d'autres mots, d'autres choses, surface plane, surélevée, pied, etc., support, bon. D'autres choses et d'autres idées qui entrent dans sa définition. Mais la connexion des définitions des choses n'est pas la connexion des choses. Le concept d'une chose dit ce sans quoi cette chose ne serait plus cette chose. Le ce sans quoi une cruche ne serait pas une cruche. Sa forme, sa matière, son emploi, etc. Mais cette cruche-ci, en son existence, dans la vie concrète, n'est pas seulement en relation conceptuelle avec la terre cuite, la contenance, l'étanchéité, le potier, l'utilisateur. Non, elle est en relation avec le chat qui, du guéridon, va la faire tomber. Or, chat n'appartient pas au concept cruche. C'est pourquoi la science se donne tant de mal à isoler expérimentalement un phénomène qu'elle prétend identifier, par exemple isoler la chute d'un corps de la résistance de l'air qui perturberait l'expérience de la pesanteur, pour conceptualiser cette pesanteur. Mais l'altérité est toujours là, malgré cet effort d'abstraction. L'abstraction, ça veut dire couper deux, on extrait un phénomène de son contexte pour l'étudier dans son isolement. C'est pourquoi encore la science est mise en échec par le hasard. Ma tête dépend même d'une tuile qui tombe, quand bien même l'astronome prévoirait le télescopage d'une comète et de la Terre, Dieu préserve, il n'intégrerait pas pour autant cet événement dans la cohérence d'un unique processus de cause à effet. Contrairement à ce que disait Jean Jaurès, le hasard n'est pas la mesure de notre ignorance. On peut très bien connaître ce qui va se passer sans pour autant en trouver l'explication. Le hasard reste phénomène sans cause. Tant que la trajectoire de la comète n'est pas en corrélation avec le mouvement de la Terre, leur rencontre éventuelle entre la Terre et la comète est celle de deux séries causales, de deux séries de cause à effet, indépendantes l'une de l'autre, selon l'expression de Cournot. Cournot, qui est mathématicien, il est aussi et surtout réputé économiste, Il a vécu en France, il est français, au 19e siècle. La définition scientifique de la balistique de la comète, du mouvement de la comète, ne contient pas celle du mouvement de la Terre. Du moins, jusqu'à la rencontre précisément du champ d'attraction terrestre. La cause de cette rencontre n'est que la coïncidence, au sens propre du terme, coïncider, que la coïncidence de deux mobiles au même lieu, au même instant. La cause de l'événement, la cause de la coïncidence spatio-temporelle, eh bien, c'est l'événement lui-même, c'est cette coïncidence spatio-temporelle. Donc, pas de cause et échec de la déduction scientifique. Alors, Cournot, qui est le premier à bien définir le hasard, conclut que un événement fortuit ne manque pas de cause. Alors, ça, c'est curieux, hein, il avait bien défini, mais après, il conclut mal. Il y aurait, au contraire, trop de causes. Non. Non, la causalité du hasard est une tautologie. Une tautologie, c'est ce qui répète deux fois la même chose. La cause répète, redit la conséquence. Quant au calcul des probabilités, il n'intègre pas davantage le hasard dans une déduction de cause, de cause à effet. Son discours est négatif. Il dit explicitement, c'est ce que dit le mathématicien, c'est ce que prononce la phrase que dit le mathématicien, il n'y a pas plus de raison pour que tel cas se produise plutôt que tel autre. D'où l'énoncé d'un pourcentage vérifiable plus ou moins sur un grand nombre. Par exemple, quand je lance en l'air deux fois une pièce de monnaie, j'ai combien de chances pour qu'elle tombe deux fois sur pile? Eh bien, comme pile-pile n'a pas plus de raison de s'actualiser que face-face, que pile-face et que face-pile, il y a donc une chance sur quatre, et sur 100 lancés, deux fois, il y a en gros 25% de cas pile-pile. Mais il n'y a là donc aucune explication. Le discours est-ce que négatif? C'est parce qu'il n'y a pas plus de raison. Décidément, l'altérité n'est pas évacuable. La chose en son excéité, c'est en sa manifestation, en son surgissement, rappelle le discours à l'ordre de la réalité, celui de la manifestation, celui de l'apparaître, celui de l'insoumission. De l'insoumission à l'uniforme. C'est ainsi que toute l'histoire du monde est arrivée par des ruptures fortuites, plus que par des suivis logiques. En 1670, Pascal écrit, et c'est bien connu, je cite, « Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, la face du monde aurait changé. » Fin de citation très célèbre. La beauté de la reine d'Égypte, qui serait due, entre autres, essentiellement à son nez, a séduit César puis Marc-Antoine, deux très importants empereurs romains. La jeune Rome a pu se conjuguer à la vieille Égypte. Mais près de nous, plus près de nous, en 1792, la victoire française de Valmy a, selon l'un des combattants ennemis de la France, le jeune très célèbre, enfin il va devenir très célèbre, Goethe, chargé Lui, il pense aussi, donc, il va dire plus tard, hein, après la bataille de l'ennemi, bien plus tard, qu'elle a changé la face du monde. Certains y voient la marque, dans la bataille de Valmy, la marque du sens de l'histoire dans ce triomphe de la Révolution française contre les vieilles monarchies européennes usées. À y regarder de plus près, elle tient beaucoup à la dysenterie, qui a ravagé l'armée prussienne. On a aussi, dans cette bataille, la chance du général français qui commandait principalement Kellermann, qui sort dans la même bataille, qui sort deux fois indemne de la mort de ses chevaux tués pendant la bataille, chevaux sur lesquels il était monté. Igor Prigogine, prix Nobel de chimie au XXe siècle, a relancé le paradoxe de l'effet papillon selon lequel un coup d'aile de papillon au Brésil peut entraîner de proche en proche et de loin en loin, en se corrélant à d'autres souffles, voire en déclenchant certains, entraîner finalement une tornade au Texas. C'était l'exemple historiquement initial. Ensuite, il y a eu d'autres coups d'aile et d'autres cyclones ailleurs dans les exemples pris. Enchaînement de séries de cause à effet, enchaînement de séries causales indépendantes, comme disait Cournot, cette théorie du chaos récuse en partie, du moins, les scénarios modèles de la météorologie. Et puis, il y a les jeux de hasard, où le joueur a converti la peur du risque en goût du risque, les dés ou les cartes occasionnent entre eux des rencontres fortuites qui défient toute logique a priori et même tout calcul de probabilité si les paramètres indépendants sont nombreux. Et c'est le cas dans tous les jeux. Les martingales n'existent pas. C'est aussi le cas des codes-barres et des identifiants numériques. L'altérité du hasard l'emporte de par sa multiplicité, là, hein, de par les millions de cas possibles, l'emporte sur toute maîtrise réfléchie. Alors, toute notre vie est faite de hasards successifs et multiples, dès l'origine, dès la naissance. Simone Veil, 1909-1943, dont j'ai déjà parlé précédemment dans des émissions précédentes, écrit page 110 de « La pesanteur et la grâce », la méditation sur le hasard qui a fait rencontrer mon père et ma mère est plus salutaire encore que celle sur la mort. C'est pas rien, ça, comme affirmation. En effet, je suis le produit d'une rencontre, aucune nécessité logique dans la vie de mon père pour que mon père rencontre ma mère. Idem pour ma mère. Cause sans cause, coïncidence spatio-temporelle, bien plus. Je suis le fruit d'une conception à une heure précise ou même à une minute, voire à une seconde précise, car avant, il n'y aurait pas eu la même combinaison spermatozoïde-ovule et donc pas le même ADN et donc pas la même personne. Je suis moi par le hasard du moment de ma conception. Ne disons pas que j'aurais était un autre à une autre minute. à une autre symbiose de la conception. Non, je ne serais pas du tout. C'est un autre qui serait. Même pas dire qu'il serait à ma place, puisque je n'aurais aucune place. Ce serait, bien sûr, ni mon frère, ni ma sœur, puisque je n'existerais pas. Je ne suis pas le produit génétique d'une préméditation volontaire, mais je suis le produit d'une altérité, d'un moment d'une non-cause. Je suis le fruit d'une non-cause. C'est ainsi que je peux m'assumer sans pouvoir accuser personne. Personne n'est responsable de ce que je suis, du moins initialement. Alors que si on remplace les géniteurs biologiques, c'est-à-dire mes parents, par des généticiens manipulateurs du génome, je serai prédéterminé par une intention volontaire, dès lors responsable, consciente de ce que je suis, et il y aurait là un viol de mon identité. L'altérité, par définition, ne peut pas être contrôlée, et même en l'occurrence, l'altérité de ma conception et de mon origine ne doit pas être niée. Ceci dit, la Providence s'insinue dans ces coïncidences qui n'ont de cause que la coïncidence elle-même, sauf justement si Dieu introduit une intention dans ces événements fortuits. En fait, la cause providentielle des coïncidences n'est pas une cause à proprement parler, mais une finalité, pas une cause mais un but, un sens à l'avènement fortuit. L'altérité persiste car Dieu est le tout autre, et l'homme, sans la grâce, ne peut discerner l'événement qui ouvre la voie du bien. Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme le dit le psaume 139 et la lettre aux Romains 11, 33.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.